BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Aujourd'hui, un réalisateur viendra nous parler de sa dernière création publicitaire. Il s'agit de Bruno Aveillan. Il signe le film Éternel, un court-métrage de 7 minutes pour l'agence Les Gros Mots et Le Puy du Fou. Valérie Potin, dans l'édito de la semaine, reviendra sur la stratégie de Seat qui propose à ses clients d'acheter leur voiture sans engagement. Et puis, on s'intéressera à la durabilité et à l'éthique des marques en compagnie de Lénaïque Pino, experte des marques durable chez EY, et Aurélia Cocheteux de l'agence Pixelis. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, dans les news cette semaine, cette nouvelle opération de communication pour Hitch, et ça se passe dans le métro parisien.
Dans 20 rames de métro, la start-up de VTC a ajouté de nouvelles stations sur les plans des lignes. Chez toi, chez ton match Tinder ou encore ton grec. Des stations en rose aux couleurs de la marque, accompagnées de ce message: ta ligne s'arrête, l'app Hitch jamais. Hitch qui offre à cette occasion 3500 codes promo à gagner.
Herta dévoile un film avec humour pour le lancement de sa gamme de produits à la fois bio et sans nitrite.
On découvre dans cette vidéo un père de famille qui fait toujours les choses à moitié. Il commence à tondre la pelouse du jardin, mais il ne finit pas le travail. Il appelle sa fille Marie, alors qu'elle s'appelle Marie-Cécile. Il met une nappe trop petite sur la table où il se balade avec une seule chaussure au pied. Alors devant sa fille interloquée, la mère de famille en profite pour envoyer une petite pique à son mari. Elle apporte pour le repas du jambon bio et sans nitrite, parce que chez Herta, on déteste faire les choses à moitié, nous dit-on. La campagne est signée par l'agence Ogilvy Paris.
Et puis Audi surf sur le succès de la sortie au cinéma d'Avengers.
Le constructeur allemand s'offre Brie Larson dans une publicité, un film où Captain Marvel revient sur Terre après plusieurs années d'absence. Un agent lui fait alors une mise au point sur les dernières nouveautés de notre époque, alors les smartphones, Instagram ou encore les régimes sans gluten, mais aussi la nouvelle Audi e-tron, un SUV 100% électrique que l'héroïne recharge immédiatement avec ses super pouvoirs.
Décidément, Frédéric, on avait eu Game of Thrones il n'y a pas longtemps. C'est vrai que les marques, elles aiment bien ce genre de grosses licences.
Ah oui, bien sûr. C'est le moyen le plus simple, le plus efficace de toucher immédiatement un énorme public. Je crois même que James Bond lui-même va passer à la voiture électrique incessamment sous peu.
Ah, vous avez des infos, vous.
Voilà.
C'est vrai que la voiture et vous, je sais, c'est une grande histoire d'amour. Merci Marie Valogne, on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
L'invité de la semaine aujourd'hui, c'est Bruno Aveillan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, photographe, artiste, plasticien et vous signez pour l'agence Les Gros Mots le film Éternel, la nouvelle campagne du Puy du Fou. D'abord, comment est-ce que vous avez été amené à travailler sur ce projet?
J'ai été appelé justement par l'agence Les Gros Mots qui souhaitait réaliser un film pour le Puy du Fou. Alors, faut savoir que le Puy du Fou, donc, est en plein développement et c'est un parc qui vient de recevoir plusieurs fois d'ailleurs un très beau, une très belle récompense internationale, le nommant meilleur parc du monde. Et je pense que dans cette énergie-là, ils ont souhaité créer leur premier grand brand film, en fait, leur premier film de marque. Et c'est dans ces contextes-là, voilà, que j'ai été consulté par l'agence.
Et c'est vrai que vous parlez de film de marque, c'est un vrai film, c'est un vrai court-métrage, hein, Frédéric. Ah, il y a une version qui fait 7 minutes, une autre qui est plus courte, qui fait 3 minutes 30. Ouais. Un film très esthétique, je crois qu'il y a eu plus de 2 ans de travail. Pourquoi ça a demandé autant de temps?
Alors, en fait, il y a eu 2 ans, je pense, de travail en préparation entre l'agence et le client, pour peut-être les convaincre déjà de passer le cap, parce que c'est pas rien de faire son premier film. Moi, j'ai déjà eu le cas avec plusieurs grandes marques, effectivement, qu'on fait son premier film de marque, qu'est-ce qu'on met dedans? Il s'agit pas de faire une campagne publicitaire ponctuelle pour un produit avec une date de péremption très 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 courte. Là, il s'agit de faire quelque chose qui renvoie une certaine pérennité, qu'on va regarder pendant des années et qui toujours va traduire l'ADN et la culture de la marque. Donc certaines marques hésitent un petit peu, attendent un peu le bon moment, et je pense qu'il y a eu 2 ans effectivement de préparation de la part de l'agence de ce point de vue-là. Le film concrètement, oui, on l'a préparé. On n'a pas eu 2 ans pour le préparer, mais on l'a bien préparé, et on l'a tourné pendant 6 jours, vraiment dans les contextes d'un long métrage, et on a réussi ce pari qui était assez cher à mon cœur quand, après avoir visité le Puy du Fou pour la première fois, c'était de tourner tout le film in situ, c'est-à-dire vraiment dans le contexte du Puy du Fou avec les costumes, les acteurs, les figurants que l'on voit à l'écran, mais également les décors que l'on voit qui sont ceux du Puy du Fou. Donc c'était un challenge parce que ce genre de décors sont faits pour être vus et sont très très bien faits, il faut le dire, mais vus d'un certain angle, celui du spectateur, ce sont pas des décors de cinéma. Et donc c'est un challenge, mais je pense que ça ramène aussi un certain.
C'était une difficulté particulière de déjà d'avoir des, c'est rare d'avoir des acteurs qui sont finalement les gens qui sont dans la vraie vie du produit qui est dans le film. Vous avez rencontré des difficultés particulières sur ce plan-là, et en particulier le fait que ce soit au Puy du Fou.
En fait, ça a été plutôt un avantage. On a plutôt attiré un grand avantage parce que ce sont des gens. Alors, je parle pas des deux acteurs principaux qui je rends grand hommage parce qu'ils ont été formidables, le soldat et sa fiancée, Lucille et Arthur. Mais le fait de travailler effectivement avec les personnes, les cascadeurs, les cavaliers, les figurants sur leur propre lieu de travail, ça a été un incroyable avantage parce qu'ils connaissaient l'environnement par cœur, et on a plutôt effectivement eu beaucoup de bénéfices de cette collaboration.
C'est un film, on l'a pas dit encore, mais dont le contenu en fait traverse comme ça plusieurs époques, de l'époque romaine à la guerre de 14, pour faire assez simple. Il y a énormément de comédiens, je crois qu'il y en a 200 du Puy du Fou, il y a 600 costumes, il y a 30 chevaux, 2 tornes d'artifice. Est-ce que derrière ça veut dire que c'est un énorme budget, ou est-ce que vu que les décors étaient déjà faits, que les costumes existent déjà, que les comédiens sont ceux du Puy du Fou, finalement ça réduisait vos contraintes?
D'abord c'est pas un énorme budget. Alors, je pense que c'est un film qui a l'air d'avoir coûté beaucoup plus cher que ce qu'il a coûté, ce qui est toujours bien, ce qui est toujours la clé, voilà. Un film est bien produit, et je rends hommage à Quad Production qui a très très bien produit le film. On est tiré parti et avantage de tout ce qui existait. Je pense que faire un film de cette nature, avec de 7 minutes, dans de tels décors, avec une telle histoire, en partant de scratch, là je pense que c'est quasiment infinançable. Enfin, à l'échelle en tout cas d'un court-métrage publicitaire. Je ne parle pas d'un long-métrage, mais parce que chaque scène renvoie effectivement à un contexte de tournage de long-métrage, chaque scène. Sauf que nous, on n'avait pas 3 semaines pour tourner, par exemple, la scène de l'arène avec la course de chars. On avait une journée. La guerre de 14, on l'a fait en une après-midi.
Ah oui.
Voilà, ça réduit tout, mais effectivement, le fait d'avoir les outils sur place, ça a permis de faire un film très spectaculaire, très impactant, mais avec un budget très très raisonnable.
Vous êtes quand même le spécialiste, vous avez, je trouve, une double particularité. Vous êtes le spécialiste des films longs.
Oui.
Il y a eu des fameux films pour
Cartier, par exemple.
Pour Cartier, pour Chalimard. Et la deuxième caractéristique à l'intérieur de ça, c'est que c'est souvent des histoires sur l'histoire. C'est des trajets, des passages, des voyages. C'est votre truc, ça.
Oui, alors c'est possible, maintenant vous me le dites. Bon, il y en a eu d'autres, hein, qui renvoient peut-être pas à cette mécanique-là, mais effectivement, c'est quelque chose qui, le voyage, d'ailleurs, j'avais fait le premier film de Louis Vuitton.
Louis Vuitton, qui était un sublime.
Ou le premier film de Shangri-La aussi, qui était un voyage. Alors c'est vrai que ce que ces brand films ont un peu en commun, alors à pas confondre le film de marque et film institutionnel. Parce que le film institutionnel, parle, des états de fait d'une marque, de ses performances, de ses outils, de ses résultats. Bah, ça peut être très bien fait. Un brand film parle de la marque, mais sous un mode totalement différent. C'est-à-dire sur le mode de l'imagination, ça renvoie à l'histoire de la marque, à sa culture, à son ADN, mais la traduction qui en est faite dans ces films-là, c'est pour ça qu'ils sont souvent, c'est pas des 30 secondes, on peut difficilement raconter l'histoire d'une marque à 150 ans en 30 secondes, sont souvent des films longs. Et aussi, le langage qui est souvent utilisé, qui est aussi mon langage d'un point de vue cinématographique, c'est souvent celui de l'imaginaire, l'imagination. C'est-à-dire qu'on cherche on rentre dans l'histoire d'une marque, mais par la porte de l'imaginaire. On fait une proposition aux gens qui renvoie plus effectivement à l'onirisme, au symbolique, à l'émotion. Mais on est moins dans le factuel à un moment T. Et c'est ce que ces films-là, effectivement, ont en commun.
Avec Frédéric, vous parliez des films longs, c'est vrai qu'on en parle souvent, c'est une vraie tendance de fond là en ce moment. Qu'est-ce qui leur prend aux marques, c'est parce que sur Internet, on a des formats ultra courts, donc du coup, à la télévision, on se dit, tiens, on va faire l'exact opposé. Qu'est-ce qui motive ça?
Ce qui peut motiver ça, c'est le sujet même de ces films. Mais bon, quand tu disais Frédéric, je fais pas que des films longs.
Non, mais il y a d'autres marques pour lesquelles vous n'avez pas forcément travaillé qui font aussi des films longs.
Oui, absolument. C'est vrai que c'est une tendance. Alors, il faut s'en méfier aussi parce qu'il peut y avoir des fois un effet de lassitude. Enfin, c'est lorsqu'une marque, comme par exemple dans le cas du Puy du Fou, fait son premier film, c'est assez logique. Ils veulent y mettre beaucoup de choses. Ils veulent y raconter des décennies d'expérience. Et ils ont assez peu communiqué finalement, en tout cas par le film, ouais. C'est la première fois, donc c'est un peu normal. Après, si c'est un produit qui est amené à avoir une durée de vie, en tout cas la campagne durée de vie très très limitée dans le temps, ça peut avoir un effet pervers de lassitude. Si le film, donc ça, c'est des choses effectivement qui sont. Je pense que c'est au cas par cas, mais effectivement, il y a une tendance à faire des films assez longs. Mais il faut vraiment que la proposition soit. Suffisamment excitante pour donner envie aux gens d'aller au bout des choses et de voir le film jusqu'au bout, notamment sur le net où les gens sont des décideurs. Voilà.
Et à propos de long, vous n'avez pas une tentation d'en faire un vrai long, un long métrage?
On en parle effectivement. Aux États-Unis, le film n'est pas passé inaperçu. Déjà, on a des très beaux articles dans la presse, et j'ai eu quelques coups de fil effectivement de gens qui ont été assez bluffés par le film et qui y voient peut-être un potentiel de développement, mais bon, ça c'est des choses qui, voilà, ça peut arriver, on verra, l'histoire dira si ça va au bout.
Merci beaucoup Bruno Aveillant, je rappelle donc que vous signez le film Éternel, la nouvelle campagne du Puy du Fou avec l'agence Les Gros.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, nous sommes avec Valérie Potin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors Valérie, on parle aujourd'hui de Seat qui propose à ses clients d'acheter leur voiture sans engagement dans un film qui est signé par l'agence C14C.
Oui, absolument. C'est un film qui est assez intrigant, comme l'était déjà d'ailleurs le précédent film pour la Seat Arona, qui garde à peu près la même construction sémantique. Vous savez, toujours cette espèce d'opposition. Ils font comme si, d'autres font comme ça. Mmh. Ils disent si, nous pensons ça. Là, on est sur un film qui est un film aussi manifesto et qui va passer l'essentiel de son temps, 37 secondes sur 45, à brosser finalement le portrait type du client Seat, qui est un client plus jeune. Il a 35 ans, alors que la moyenne du marché est à 45 ans. Tout ça pourquoi? Parce que c'est un film qui a l'ambition de nous présenter une offre, non pas en nous la présentant en tant que telle, mais plutôt à travers les nouveaux usages et les nouveaux comportements justement de ces clients millennials, comme le fait par exemple de privilégier le partage à la possession ou à la propriété. Donc, on a quand même ce film qui va finir par nous annoncer dans les quelques secondes qui restent que Seat lance le sans-engagement dans l'automobile et qui va inviter les curieux à se rendre sur le site Seat.fr. Donc, on est sur une mécanique de drive-to-web qui est complètement en phase avec les usages de la cible.
Et une fois qu'on est sur le site Internet, qu'est-ce qu'on trouve, Valérie?
Alors, sur le site, on y comprend assez vite, finalement, que l'offre n'est ni plus ni moins qu'une offre de location longue durée sur 3 ans, donc sans apport, sans condition de reprise, mais avec une différence de taille qui est qu'elle peut être résilié sans aucune pénalité dès le 31e jour. Donc on est sur un système finalement de forfait, un peu comme le proposent les opérateurs de téléphonie. Mais là, si le but qui est affiché, on va dire, et de coller à ces nouveaux usages des consommateurs, on s'aperçoit que ces consommateurs qui ne veulent plus s'engager, qui ne veulent plus de contraintes, on s'aperçoit en réalité que le véritable objectif, c'est surtout d'attirer et de garder ces nouveaux consommateurs dans ce cercle, alors qu'on peut qualifier de vertueux ou de vicieux selon le point de vue, mais dans ce cercle de l'achat d'un véhicule neuf. Voilà, tout ça pourquoi? Parce que même si les ventes, aujourd'hui le marché de l'automobile se porte plutôt bien, Seat, comme tous les constructeur automobile, finalement, anticipe et se prépare à cette évolution du marché. Tout le monde annonce son déclin dans les années qui viennent. Donc la stratégie, cette fois-ci pour Seat, c'est de se positionner tout simplement comme un bien de consommation, aussi anodin, mais aussi essentiel que peut l'être un smartphone.
Et ça, c'est un bon calcul?
Alors, c'est un peu tôt pour le dire, en fait. Ce qu'on sait, c'est que le dispositif qui est mis en place, c'est un dispositif test. D'ailleurs, il ne porte que sur la Seat Arona. On sait aussi que Seat mise sur la satisfaction et la fidélité de ses clients, dont elle dit qu'elle est supérieure à la moyenne. Donc, c'est un peu le calcul. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que d'autres constructeurs ont essayé par le passé des initiatives comme celle-ci. Enfin, pas exactement comme celle-ci. Il y a une dizaine d'années, par exemple, c'est Opel qui proposait à ses clients de pouvoir bénéficier gratuitement, on va dire, d'autres modèles de la gamme sur des besoins spécifiques et ponctuels. C'était par exemple le fait de pouvoir utiliser un utilitaire pour un déménagement, le fait de pouvoir demander un monospace pour partir en famille, par exemple. Il y a également Volkswagen qui a proposé beaucoup plus récemment d'emmener, enfin qui proposait de prêter en fait aux supporters des Bleus de l'équipe de France de foot, proposait de leur prêter un véhicule neuf pour aller pour se rendre au stade en covoiturage. L'idée à chaque fois c'était évidemment d'attirer du monde dans la concession. Aujourd'hui, ces initiatives, elles n'ont pas été maintenues, donc soit parce qu'elles étaient inadaptées, soit peut-être parce qu'elles sont arrivées un petit peu tôt sur le marché. Donc on verra d'ici la fin de l'année finalement si 2019 était le bon moment pour Seat.
Merci Valérie Potin.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près aux marques durables. C'est le virage que sont en train de prendre de plus en plus d'annonceurs, transformés, leur discours de marque en discours engagé. On en parle avec Lénaïque Pinault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes experte des marques durables chez EY et à vos côtés, Aurélia Cocheteux. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes Sense Activiste chez l'agence Pixelis. Ça veut dire quoi ?
Sense Activiste, en fait, c'est ce qui m'anime depuis 10 ans maintenant. C'est le fait de militer pour le sens et les émotions, puisque sense veut dire ces deux sens-là en anglais. Et je pense que ce n'est qu'en conjuguant le sens et les émotions qu'on parviendra vraiment à faire advenir le changement nécessaire dans notre monde.
Alors chez EY, vous dites la marque de demain sera durable ou ne sera pas. Sur quoi vous vous basez pour dire ça ?
Tout à fait. En fait, aujourd'hui, les consommateurs ont de plus en plus de choix. L'offre est pléthore et aujourd'hui le consommateur ne s'intéresse plus uniquement aux bénéfices et à la qualité des produits, mais comment, où, par qui et quel est l'impact environnemental et sociétal du produit et comment il a été fabriqué. Et donc les marques de demain devront s'engager et démontrer leur valeur aux consommateurs.
Et c'est accessible ça à toutes les marques, je dirais à tous les secteurs, quel que soit ce qu'on fabrique, parce que est-ce que finalement il y a des choses qui vont pas purement et simplement disparaître si elles ne sont pas durables, si elles ne sont pas, si elles ne respectent pas
certains critères en tout cas. Alors effectivement, la durabilité, elle peut s'appliquer à l'ensemble des services et des produits, que ce soit en B2B ou en B2C, sur l'ensemble des secteurs d'activité. Et en fait, il est important de définir ces engagements avec une vision de l'avenir, mais aussi basée sur l'histoire de la marque, sur ses racines et sur l'essence même de ses produits pour que ça puisse vraiment fonctionner.
Mmh. Aurélia Cocheteux, qu'est-ce qui permet de définir qu'une marque est durable, éthique? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des critères qu'il faut cocher ? Comment ça se passe ?
On a effectivement tout ce qui est critères un peu objectifs, où on va aller regarder les labels, essayer de voir un peu ce qu'on appelle le discours de preuve anti-greenwashing. Mais je pense aussi qu'une marque, comme je disais, c'est une émotion. Et donc, il faut vraiment que le consommateur, le citoyen, il sente cette sincérité dans la communication de la marque. Et ça passe aussi par sa cohérence avec son histoire avec le discours de vérité, en fait, qu'elle va pouvoir partager avec le consommateur. Ça passe aussi par un droit à l'erreur, des initiatives de communication qui vont être plus locales, vraiment venir casser les codes en fait du marketing que le consommateur maintenant connaît par cœur. Et voilà.
C'est ça la difficulté aussi, parce que il faut y croire. C'est pas tout de dire qu'on est durable et ou respectueux, etc., etc. Encore faut-il que le consommateur y croit. Qu'il n'y ait pas une remise en cause ou quelque chose qui serait du greenwashing ou du n'importe quoi washing. Et là, on est dans une position un petit peu difficile, en tout cas pour certaines, non ?
Tout à fait. On parle beaucoup de la notion de confiance ou de défiance en creux en ce moment. Et les marques ont beaucoup de choses à faire, à mon avis. Elles doivent vraiment casser les systématismes dans lesquels elles sont et tendre les bras et la main aux consommateurs, mais aussi faire davantage avec eux. Je pense que c'est la clé, en fait, construction de la confiance, c'est de faire avec.
Mais, pardon, mais quand on voit ce qui s'est passé avec Notre-Dame, c'est-à-dire où il y a des marques qui, le feu n'était pas éteint, qu'il y avait déjà des marques, alors il y a aussi des gens, mais disons, essentiellement des marques, qui ont annoncé qu'elles allaient donner 100, 200, 300 millions, etc. Ça n'a pas été uniquement pris positivement par le public, quoi.
Et oui, parce que pour moi...
C'est du bien.
C'est du bien, mais le plus important, c'est qu'est-ce que je produis, moi, au cœur de mon offre, au cœur de mon service ou de mon produit. Et à partir de ce moment, je peux aller aider d'autres causes et soutenir d'autres causes. Mais si le cœur de mon offre est plutôt destructeur ou nuisible à la société, j'aurai peu de crédibilité sur d'autres initiatives.
Léna Hicpino, est-ce qu'il y a une question de taille? Est-ce que c'est plus facile pour des petites boîtes, finalement, de prouver leur durabilité, d'être... durable par nature, en fait, presque. On voit beaucoup dans cette nouvelle génération d'entrepreneurs que ce sont des critères qui mettent vraiment en avant dès le début, dès la création de leurs entreprises, plutôt que des grosses machines internationales.
Effectivement, il est plus facile de créer une marque en intégrant directement dans son ADN la RSE et un engagement fort. Néanmoins, toutes les grandes marques peuvent aussi s'y développer et avoir du succès. Pour nous, c'est important d'avoir quatre piliers pour devenir une marque durable. Ça doit être une marque engagée, une marque avec une offre et des produits durables, une marque engageante et une marque transparente. Et donc, une marque engagée, elle va véritablement communiquer et prendre des engagements forts et chiffrés dans le temps. C'est par exemple l'exemple d'Unilever avec son plan Sustainable Living Plan qui a aujourd'hui un impact fort sur son business puisque les marques qui ont décidé de suivre cette démarche ont une croissance plus forte de 50%.
De 50%?
De 50%, ah oui, tout à fait. Et selon Unilever. Ensuite, une marque engageante, c'est une marque qui va co-construire avec ses parties prenantes et notamment les consommateurs. En France, on a un super exemple, c'est Qui le patron. Là, c'est une plus petite marque qui a complètement révolutionné...
Il y a pas longtemps.
Qui a complètement révolutionné la façon de définir le cahier des charges d'un produit en interrogeant le consommateur pour comprendre quelles étaient ses attentes. Et aussi, c'est important d'avoir une marque avec des produits et des services durables. C'est-à-dire qui va définir ce qu'est un produit durable, un service durable, qui va définir ses critères et les piloter. Un exemple, L'Oréal. Nous les avons accompagnés sur le projet SPOT pour définir ses critères environnementaux et sociétaux afin de faciliter l'éco-conception de leur offre et diminuer l'impact environnemental de leurs produits. Et seulement quand on a commencé à faire, on peut communiquer et être transparente. Et c'est là où c'est important, après, d'avoir des preuves concrètes sur chaque claim, sur chaque allégation que la marque va mettre en avant.
Alors, Pixelis, vous avez organisé il y a quelques jours un événement qui s'appelle Sustainable Brands à Paris, de conférences en fait autour de ce thème-là. Qu'est-ce qu'on y a appris? Qu'est-ce que ça fait pousser comme graine dans ce domaine?
Bah, plus qu'une conférence, effectivement, on a essayé de construire une expérience qui soit apprenante tout à fait. Donc le but, c'était de venir inspirer en créant des conversations entre les grandes marques et les plus petites, celles qu'on a appelées les pirates, pour vraiment venir réunir ces deux mondes et leur permettre d'adresser la complexité de la société, de la transformation qui est nécessaire et passer à l'action. On avait aussi des ateliers qui étaient animés notamment par nos amis d'EY, qui étaient thématiques sur celui de la nutrition, de la ville. Et là, on était vraiment beaucoup plus dans l'action, les outils, les bonnes pratiques, mais aussi beaucoup de networking. On espère que ça a semé énormément de graines. On est toujours frustrés, on veut toujours aller plus loin et donc on travaille déjà à l'édition 2020 pour qu'elles soient encore plus dans l'action, la solution, par le design.
Est-ce que on a beaucoup parlé de critères environnementaux, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout l'engagement social, sociétal. Comment est-ce qu'on mesure ces critères-là? C'est peut-être plus difficile à aller vérifier ça, non?
Oui. Après, pour moi, la mesure, c'est rassurant, mais c'est pas le prérequis à tout engagement.
Est-ce que c'est pas un passage obligé quand même pour amener les consommateurs à avoir confiance, en tout cas au début?
En fait, tout dépend ce qu'on met derrière social ou sociétal. Pour moi, en fait, c'est le point de départ avant même de parler d'environnement. Si, à partir du moment où je fais avec mes parties prenantes, j'écoute, je co-construis avec mes collaborateurs, les populations locales, les citoyens, les consommateurs, de fait, donc là on peut aller mesurer une forme de nombre de communautés qui ont été créées, etc. De fait, les actions qui seront entreprises seront dans le respect de l'homme, de l'environnement, de l'économie locale.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que ces marques, qu'un certain nombre de marques, je prends un exemple pas totalement au hasard d'ailleurs, quelqu'un qui fabrique des pneus, a priori, est pas hyper respectueux par nature de l'environnement, parce que fabriquer un pneu, c'est pas quelque chose de très écologique, mais il y en a besoin, donc il les fabrique. Comment est-ce qu'il fait à partir de là pour rester une marque
acceptable dans ce domaine-là ?
Il y a un océan d'action, parce qu'en fait, là, vous parlez du produit, mais avant tout, une marque, c'est une raison d'être, c'est une utilité au monde. Donc, quand on pense à ce genre de marque, on peut aller... donc, moi, personnellement, je pense à Michelin, qui, du pneu, est passé à la mobilité. Ouais. Promesse de mobilité. Mmh. Et puis ensuite, on peut aussi penser au cradle to cradle. Qu'est-ce que je fais de mes pneus usagés? Ouais. Comment je les réutilise? Je les réinjecte dans une autre économie. Donc il y a énormément... Moi, je vois dans le développement durable un océan d'opportunités, de créativité. Chaque entreprise peut se réinventer, en effet, comme tu disais, Lénaïque.
Merci beaucoup, Aurélia Cocheteux. Je rappelle que vous êtes donc Sense Activiste chez l'agence Pixelis et Lénaïque Pino, experte des marques durables chez EY. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdo.com sur BFM Business.